Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on résume toute l'actu tech, internet et gadgets. On écoute les podcasts, on lit les articles, on discute avec des gens plus intelligents que nous, comme par exemple, moi ce que je fais, c'est que j'arrive, je dis bonjour, je suis Patrick, et j'essaye de discuter avec des gens comme Marion. Salut Marion, comment ça va? Est-ce que tu es en forme?
Salut Patrick. Ben écoute, oui, bien la forme, je rentre de vacances, donc je suis ravie de retrouver... avec les batteries rechargées.
Super. Moi, j'ai survécu à la canicule. Donc, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Et donc, je suis Patrick Béja et on vous résume toute cette actu tech et on vous explique ce qui s'est passé. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'aller vous-même suivre toute cette actu parce qu'on le fait pour vous. Et si on peut le faire déjà depuis 464 épisodes, peut-être même plus si on rajoute les épisodes spéciaux, eh bien, c'est grâce au soutien des Patriotes. Les Patriotes, c'est ceux qui décident de soutenir financièrement les comme un nouveau patriote qui a rejoint l'émission et à quel on va faire la fête aujourd'hui. Alors, je suis encore pas chez moi à la maison, donc j'ai pas les petits effets sonores, tout ça, donc je vais les faire à la main. C'est Yann Bajot. Bravo Yann, bonjour, merci, bravo, bravo, on t'aime beaucoup, merci Yann. J'ai fait les... Voilà, petits applaudissements, wouhou! Et aussi les producteurs, évidemment, SSI78 et Peter Rigal. Merci à vous deux, les producteurs de cette émission, qu'on remercie tous les mois. Et merci à Yann de nous avoir rejoints. C'est grâce à vous que l'émission existe. Et si vous voulez rejoindre la famille des Patriotes, c'est patreon.com/rdvtech. Et du coup, on a de l'actu aujourd'hui et des sujets, je dirais, un petit peu surprenants, dont certains diront que, mais non, on le savait. On va parler de Microsoft qui abandonne lâchement Microsoft Internet Explorer, pour le plus grand malheur de certaines administrations japonaises. On a aussi des petites histoires du côté d'Apple avec des choses peut-être pas très bien qui sont en train de manigancer. On a aussi des choses, pour le coup, intéressantes à analyser qu'a dit Elon Musk aux employés de Twitter. Et bien sûr, la plus grosse news du jour, c'est cet article, cette information sur ce qui se passe du côté de TikTok et de Biden. J'ai failli dire BuzzFeed. BuzzFeed, non, c'est ceux qui ont publié l'article en question. C'est ce qui se passe du côté de TikTok et de Biden. Tu te souviens de cette histoire où de ce qui s'était passé il y a quelques années, les exécutifs, les présidents de TikTok avaient été obligés de jurer leur grand Dieu devant le public et les hommes politiques américains que la Chine n'avait pas accès aux infos de TikTok. Tu te souviens de ça ou pas?
Ah bah oui, quand même, c'était un peu le cheval de bataille de Trump quand même.
Exactement, il s'était lancé dans une sorte de croisade anti-TikTok, sans qu'on comprenne vraiment exactement pourquoi. Alors il disait oui, la Chine écoute, mais bon, enfin il y a plein de d'entités liées à la Chine.
Il disait beaucoup de choses, mais il n'y avait pas forcément de fait derrière, il n'y avait pas de données rapportées, il n'y avait pas d'enquête. Publiés, etc. Donc on avait un peu l'impression que c'était la parole d'un homme politique qui était convaincu que, mais on n'avait pas de source très tangible.
Exactement. Et du coup, là, ce qui s'est passé, c'est que il y a un leak qui a eu lieu il y a quelques jours de ça, avec lequel on s'est rendu compte. Alors, de quel leak il s'agissait? C'est visiblement, je ne sais pas comment ils ont obtenu ça, mais c'est des enregistrements de conversations d'employés de TikTok. et qui parle de ce qui se passe avec les employés de ByteDance, la société chinoise qui est le parent de TikTok. Et on se souvient qu'aux États-Unis, bah, les États-Unis voulaient que TikTok devienne une société américaine, qu'elle soit vendue à une société américaine. Alors, il y avait plein de noms qui avaient circulé, mais c'est tellement nébuleux que personne n'avait vraiment compris pourquoi, comment, si ça se ferait, etc. Au final, ça s'était pas fait, même s'il y a un deal qui est fait avec Oracle pour héberger les données de l'app aux États-Unis plutôt qu'en Chine. Mais bref, ce qu'on a dans ce leak, c'est des conversations dans lesquelles les employés discutent de l'accès qu'ont les employés chinois de ByteDance aux données privées des utilisateurs américains. Alors là, on parle des utilisateurs américains, on se doute bien que c'est pas limité aux utilisateurs américains, et qu'ils ont eu entre au moins septembre 2021 et janvier 2022. Et là aussi, on se doute bien que c'est pas limité à ces dates-là, mais c'est ceux dont ils ont eu écho dans ce leak chez les journalistes de BuzzFeed. C'est particulièrement notable parce que, comme je le disais, alors des sociétés qui ont accès à des données privées, dont ils prétendaient qu'elles étaient privées, c'est pas la première fois que ça arrive. Mais c'est vraiment notable parce qu'on avait eu des témoignages, presque sous serment, des responsables de TikTok aux US qui juraient leur grand Dieu que la Chine n'avait absolument pas accès à ces données-là. Et du coup, ça colore non seulement TikTok, mais en plus, je pense, l'ensemble de l'image qu'on peut avoir des applications chinoises et des systèmes chinois qui ont aussi été particulièrement problématiques sous la présidence de Donald Trump. Et du coup, pour moi, pour TikTok, c'est important, mais moi, ça me fait immédiatement penser à des trucs comme Huawei, qui est encore sous le coup de sanctions américaines, et où là encore, c'est un peu nébuleux. Alors là, ils sont un petit peu plus explicites, ils disent, on a des craintes sur les possibilités d'espionnage de l'administration chinoise ou du gouvernement chinois sur les données qui transitent par ces matériels, et c'est pour ça que Huawei n'a plus accès à Android, etc. Mais du coup, ça légitimise ce genre de décision, alors qu'on était peut-être... Je sais pas, t'en penses quoi? Du coup, tu te méfies plus qu'avant du matériel chinois dans l'ensemble, même si c'est très vague, ou ça reste... c'est peut-être TikTok, là, on a des choses. Sur Huawei, on a peut-être des choses, mais on va pas non plus jeter tout le matériel chinois à la poubelle. C'est difficile à appréhender, ça.
Alors, c'est marrant parce que de mon côté, c'est pas forcément ce leak qui me ferait me méfier un peu plus. C'est plutôt les dernières actions du gouvernement chinois qu'on a pu voir, qu'ils ont pris à l'encontre de leur propre société tech, qui montre un petit peu l'emprise du gouvernement et qui confirme un petit peu les craintes qu'on peut avoir. Alors, tu vas me dire, certes, le leak montre quand même l'ampleur des données collectées, mais ouais, c'est pas quelque chose qui va m'inquiéter plus que je ne l'étais déjà. Après, je ne poste rien de critique sur TikTok. J'ai peu d'informations importantes. Enfin, en plus, je ne fais rien sur TikTok, donc c'est vrai que je ne fais que regarder les autres.
Tu te sens moins concernée.
Je me sens moins concernée.
Sur TikTok, les données en question, on l'a pas dit, mais c'est des données qui sont relativement minimes pour la plupart des gens. On parle des données de votre profil qui peuvent être accédées comme numéro de téléphone, ce genre de choses. Mais c'est surtout pour identifier que ça peut poser problème. Bon, c'est plus pour le principe. C'est-à-dire qu'on parle de numéro de téléphone, de date d'anniversaire, ce genre de choses. Mais c'est effectivement plus pour le principe. Et tu parlais de la question de la manière dont l'administration chinoise essaye de mater l'industrie tech, et on voit qu'ils font déjà marche arrière parce que ça affecte leur économie et qu'elle est déjà affectée par la pandémie, etc. Mais oui, disons que la manière dont on regarde le gouvernement chinois et son rapport à la tech a certainement changé depuis 5-6 ans. Et bien sûr, là, on parle de ByteDance, hein, et on fait une sorte de d'équivalence avec le gouvernement chinois. Ça en surprendra peut-être certains, mais évidemment, si ByteDance a accès aux données, ByteDance, ils sont en Chine, leurs serveurs sont en Chine, et donc l'idée que le gouvernement chinois a accès à toutes les données auxquelles ByteDance a accès, bah, c'est même pas qu'elle est facile à prendre, c'est qu'elle est évidente, quoi. C'est pour ça qu'on fait le raccourci.
Oui, direct. Et de toute façon, ça voudrait dire aussi qu'ils ne sont pas conformes par rapport au RGPD aussi, puisqu'en Europe, il y a aussi le fait que les données des utilisateurs ne doivent pas être stockées, enfin doivent être stockées sur des serveurs européens, non ?
Ah bah évidemment, oui, tout à fait.
Donc là, on parle que des États-Unis, mais en fait, ça montre aussi qu'ils enfreignent la réglementation européenne, tout simplement.
Ah, tu fais bien de le signaler. C'est marrant parce que ma réaction, c'est un peu « Ah, comment, couis-je ? La Chine ne respecte pas le RGPD ? Oh, mais je suis choqué !» Tu sais, c'est genre, tu prends un tueur qui sort son flingue et tu lui dis « Mais vous n'avez pas votre permis de conduire, monsieur ? C'est pas tout à fait réglementaire, tu sais. » Enfin bon, bref.
Oui, mais bon, à cette échelle de société, c'est plus quelque chose qu'on peut ignorer, tu vois.
Enfin, non, mais t'as tout à fait raison, oui, bien sûr. À propos d'échelle de société, tiens, le plus gros réseau social du monde, Facebook et ses amis, t'as vu un autre leak d'un mémo interne qui décrit la manière dont Facebook se fait évoluer c'est pour les mois et les années à venir, leur objectif, si c'était pas clair avant, maintenant c'est clair, mais la direction qu'impose Mark Zuckerberg à ses équipes maintenant, c'est vous faites comme TikTok. Juste, voilà, si TikTok le fait, bah, vous faites pareil. Et j'ai tendance, vraiment pour Facebook, hein, l'idée c'est de presque transformer, ils vont très loin, ils vont réintégrer par exemple Messenger, la partie de messages directs, de communication directe de Facebook, qui avait été séparé en une autre app il y a des années déjà, eh ben ils vont la réintégrer juste pour être plus comme TikTok, donc pour permettre la communication au sein de l'app. Ils vont pousser leurs Reels et leur équivalent à TikTok beaucoup plus dans l'app, proposer aux gens de voir sur leur flux beaucoup plus de contenu qui n'est pas issu de leur réseau de communication, enfin de leur graphe social, etc., etc. J'ai tendance à me dire, mais enfin, c'est n'importe quoi, qu'est-ce qu'ils font ? Ma première réaction, c'est genre, mais ils chassent toutes les premières, toutes les tendances du moment. L'année dernière, c'était les super apps, genre WeChat, il y a quelques années, c'était ça. Ensuite, ils veulent le métavers, sur lequel ils travaillent aussi, bien sûr, et maintenant, tout à coup, c'est TikTok. En même temps, je me dis, ils doivent être obsédés par la peur, et d'ailleurs, ils le disent, hein, la peur de devenir, de plus être relevant, comme on dit en français, relevant, de plus être...
Tu peux pas complètement comparer leur quête du métaverse avec l'évolution vers TikTok de Facebook. C'est carrément deux produits différents, je dirais. Donc en fait, ils ont plusieurs produits, ils ont Instagram, ils ont WhatsApp, ils ont le métaverse qu'ils vont développer quelque part, mais et donc ils avancent sur chaque produit en parallèle. Donc ça, je trouve pas ça complètement étonnant. Ouais, voilà. Par contre, on peut se questionner sur l'intérêt et la pertinence de poursuivre une expérience TikTok qui cible un public plutôt très jeune. Je connais pas, j'ai pas les données exactes sur le cœur de cible de TikTok, mais il me semble quand même que c'est plutôt de l'adolescent qu'autre chose.
Et donc, du coup, c'est pas le même public que Facebook, ça, je pense que personne n'en doute.
Exactement. Donc moi, du coup, ce serait ma première interrogation, c'est est-ce que ils seraient en fait, est-ce qu'ils tournent le dos à leur cœur de cible sur Facebook, et c'est une décision consciente, donc ils sont prêts à perdre des personnes plus âgées, etc., qui ont acquis cet usage de Facebook et l'utilisent d'une certaine manière, pour potentiellement séduire un nouveau cœur de cible qu'ils recherchent désespérément, qui seraient peut-être les plus jeunes. Je suis vraiment curieuse de ça, parce que aujourd'hui Facebook, enfin moi par exemple, alors, je suis pas adolescente, hein, donc je suis pas dans le cœur des cibles qui cible, mais je n'utilise pas Facebook. La seule activité que tu peux voir de moi, c'est quand je poste d'Instagram et que ça se poste automatiquement de Facebook, ce que je trouve un peu triste.
Mais d'ailleurs, Instagram, je ne sais pas si tu as eu cette expérience, si c'est AB testé ou si c'est étendu à toute la plateforme, mais Instagram aussi a été complètement TikTokisé.
Il y a et tout à fait, tu as les vidéos.
C'est ça.
Tu as les stories, tu as les stories qui apparaissent. Ouais, ils avaient prévenu, tu as les stories qui apparaissent directement dans le feed et des stories de gens que tu suis pas. Donc ce que tu as un peu dans Discover, tu l'as maintenant dans ton feed sous forme de vidéo. Et donc moi je me retrouve à voir des vidéos de chats qui sont addictives, mais c'est pas forcément ce que je recherchais dans mon feed abonné Instagram. Mais bon, ça montre mes intérêts aussi.
Du coup, tu les regardes quand même, vu que c'est des vidéos de chats mignons.
Mais bah, c'est ça.
Et on a l'impression qu'il y a... Enfin, je ne sais pas si on peut dire qu'il n'y a pas de cohérence entre tous les produits de Facebook, mais vraiment, c'est genre Instagram, ça part dans un sens parce qu'ils ne veulent pas perdre contre TikTok du côté d'Instagram. Et du coup, ils ont complètement transformé le produit. Je veux dire, il y a eu un shift dramatique ces dernières semaines, hein, ça ne fait pas si longtemps, où on était encore dans un produit où on avait essentiellement de la photo de différents types, mais de la photo.
Mais ils avaient déjà fait un pivot côté e-commerce aussi sur Instagram qui était très fort et super intéressant d'ailleurs. Moi, j'ai trouvé ça, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je trouvais le pivot super pertinent pour le coup pour Instagram parce que t'as une expérience visuelle où voilà, la photo est primordiale et donc dans l'expérience e-commerce, pouvoir voir la photo de ce que tu vas acheter, c'est très important. Donc, je trouvais ça assez intéressant. Maintenant, c'est vrai que comme tu le dis, depuis quelques semaines, il y a vraiment une accélération, enfin quelques mois, une accélération sur la vidéo, les reels, les vidéos, les stories qui s'insèrent un peu partout là, qui deviennent un peu oppressantes quoi.
C'est ça, c'est que j'ai l'impression de plus avoir le même réseau quoi. C'est plus, enfin le même produit, le même service, le même réseau social. C'est complètement, ça a complètement. C'est comme tu sais, tu vas dans ton, je sais pas, ton magasin du coin et tout à coup ça s'est transformé de. J'essaye de trouver des trucs neutres. Je sais pas de bio c'est bon à Naturalia. T'es un peu dépaysé, ou même pas. Encore pire, de bio c'est bon à Monoprix. Et tu te dis, mais attends, c'est pas là que je voulais aller, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas bien, tu vois. Parce
ouais.
que même.
Ouais, en fait, tu vas dans un petit producteur indépendant et tu te retrouves dans une chaîne, quoi. Parce qu'en fait, toutes les expériences se ressemblent après.
Ouais. Bon, oui, en même temps, Instagram n'était pas un petit producteur indépendant. C'est pour ça que j'arrive pas à trouver la bonne image. Si vous avez la bonne image pour Instagram, n'hésitez pas à la partager avec nous. Mais bon, bref, Facebook se transforme aussi. Alors, peut-être qu'ils se disent, tu sais, les vieux, ils vont pas partir de toute façon. Donc, voilà, ils comprennent rien au réseau et à Internet, quoi qu'il arrive. Donc, on va essayer de récupérer des jeunes avec nos reels. Mais vraiment, ça fait how do you do, fellow kids, quoi. C'est bon, bref.
Après, c'est, enfin, tu vois, la compétition, enfin, on s'inspire toujours de la compétition, de qu'est-ce qui se passe, des tendances. Enfin, on apprend en copiant aussi, hein. Donc, faut pas non plus juste cracher sur les produits qui vont essayer de répliquer, s'inspirer de ce qui se fait de mieux ailleurs. Maintenant, moi, ce qui m'étonne vraiment, c'est essayer de se baser sur un produit qui cible pas du tout le même type de personne, la même tranche d'âge, etc. Donc après, ils ont certainement fait des tests, hein, donc ça veut dire que peut-être en faisant des tests, ils ont vu qu'ils ne perdaient pas tant de personnes que ça, mais ils en gagnaient plus. Donc ça sera à voir, hein, mais ce qui est bizarre, c'est que ça donne un peu l'impression de cette poursuite vers la reconquête des jeunes, ce qui donne un peu un sentiment un peu triste.
En même temps, on peut pas leur enlever qu'ils ont, enfin, ils l'ont déjà fait, quoi. Tu parlais des stories tout à l'heure avec Snapchat. Ils ont complètement fait un hold-up de cette forme de vidéo. Même si Snapchat est encore là, ils se portent très bien. Bah, ils sont beaucoup plus présents avec les stories sont beaucoup plus présentes sur les réseaux plus vastes que sont Facebook et Instagram. Et puis, autant, comme je disais, ma première
réaction. Tu regardes des stories, toi, sur Facebook?
Non, mais moi, j'utilise pas Facebook. Mais il y a plein de stories. Tu vois, je sais pas
oui,
ensuite.
Oui, parce qu'en fait, il y a beau avoir des stories. Pareil, je ne les regarde pas. Mais je les regarde sur Instagram, là où
c'est
ils ont
ça.
Réussi. Ouais,
exactement. Tout à fait. Et du coup, d'un certain côté, je peux pas m'empêcher de me dire, je sais pas si on dirait, je suis admiratif, mais me dire, peut-être que ça marche, tu vois, de pas avoir la peur de changer intégralement, radicalement, peut-être pas intégralement, mais radicalement ton produit pour t'assurer que tu colles au truc qui marche en ce moment, parce que bah, Facebook, ils commencent à avoir presque 20 ans, ils auraient complètement pu sombrer dans l'oubli trois fois déjà en temps Internet. Et là, ils se disent, bah ok, nous, ce qu'on fait, ça marche plus trop bien, donc on va aller vers ce qui marche mieux, ou pour ne pas se faire bouffer, pour pas attendre qu'il soit trop tard, pour pas devenir Yahoo, Friendster, enfin les 1000 boîtes qui ont disparu depuis la création de Facebook.
C'est sûr que les équipes produits, quand elles sortent, quand elles publient leur, leur, leur version d'application, elles ne doivent pas avoir des sueurs en se disant « Ok, je vais impacter X% de personnes dans le monde ». Bon, alors après, évidemment, l'intérêt de Facebook aussi, c'est que comme ils ont tellement d'utilisateurs, c'est qu'ils peuvent aussi se dire « On ouvre cette version de l'application à un petit pourcentage de l'application, des utilisateurs et on voit ce qui se passe ». Comme ça, ça n'impacte pas tout le cœur de business de Facebook de manière dramatique, mais c'est sûr que tu as un impact à une échelle. Et ce qui est assez difficile aussi, c'est que Facebook, c'est tellement partout dans le monde et qu'il y a potentiellement des comportements différents en fonction des cultures, de l'accès à Internet, de l'âge, etc. Que c'est vrai que ça peut être aussi compliqué à tester et avoir des résultats utilisables aussi, quoi. Je serais curieuse d'être une petite souris, tu sais, pour voir comment ils font.
Chez Facebook. Écoute... une chose dont on est certain, c'est que Microsoft a enfin décidé de pull the plug on Internet Explorer. Internet Explorer, c'est terminé. Et chez nous, c'est pas vraiment un gros événement. Enfin, si, c'est un événement parce que 27 ans après le lancement d'Internet Explorer. J'avais mis d'ailleurs dans la newsletter de la semaine dernière, si vous l'avez pas ouverte, allez la regarder. Il y avait un petit graphique hyper intéressant de la popularité des, navigateur Internet à travers les 20 dernières années ou même les 30 dernières années. C'était hyper intéressant de voir à quel point Internet Explorer était à un moment tout Internet. Mais tout, c'était le seul navigateur qui comptait. Et puis, petit à petit, il s'est fait bouffer, notamment par Chrome, après avoir lui-même bouffé d'autres navigateurs. Mais donc, maintenant, c'est terminé. Évidemment, Microsoft a Edge pour le remplacer. La plupart des gens voient ça passer en disant « Ah bon, c'est adieu Internet Explorer, bon vent vers le paradis des navigateurs qu'on a aimé détester ou détester aimer. »
Part... J'ai entendu beaucoup d'ingénieurs se réjouir. ça, plus besoin de maintenir Internet Explorer.
mais par contre, au Japon, eh ben, c'est un cataclysme parce que il semble qu'une immense... Ah, pourtant, on savait hein, depuis longtemps que Internet Explorer était sur la voie de la sortie. Mais aujourd'hui, enfin en mars 2022, il semble qu'il y a encore 49% des organisations japonaises, qu'elles soient dans l'administration ou dans le business, qui utilisent encore Internet Explorer pour le boulot. Et c'est pas des trucs où tu te dis « Bon, bah, c'est la machine qui est installée par défaut, donc on l'utilise pour naviguer. » Non, c'est des outils qui avaient été développés pour Internet Explorer, qui n'ont pas été portés sur les autres navigateurs, sur les autres plateformes, et qui donc sont essentiels à leur travail, et qui, du coup, qui ne savent pas exactement comment utiliser et comment ça va être possible. Est-ce qu'ils peuvent garder une vieille version forcée à installer sur leur navigateur, enfin, sur leur système, etc. Ça va toujours... Je ne suis pas surpris que ça soit au Japon, parce qu'ils ont quand même une sorte d'inertie qui est quand même difficile à influencer. Mais ça me fascine toujours, ces boîtes où tu sais que le truc va arriver des années à l'avance, et tu fais quand même pas ce qu'il faut pour pouvoir être, passer le cap une fois que le truc disparaît, quoi.
Ouais. Après, ce que j'avais vu, c'est que Edge allait avoir un mode Internet Explorer, justement pour les derniers.
Ouais,
jusqu'en 2029.
Je sais
donc,
pas.
Donc, tu vois, ils ont normalement jusqu'à 2029 pour pouvoir faire la migration. Ou est-ce que c'est pas complètement compatible avec leur système?
C'est ça la grande question. Est-ce que le mode Internet Explorer de Edge, il est vraiment 100% comme Internet Explorer ou est-ce qu'il... Visiblement, au Japon, c'est la panique. Hein. C'est genre, on ne sait pas comment on va faire, ça va prendre un an ou plusieurs mois au minimum. Donc, peut-être qu'il fonctionnera bien, ce mode Edge, et auquel cas, ils pourront repousser la panique à 2029 et à ce moment, ils diront « Mais merde, qu'est-ce qu'on va faire ?» Mais on ne le savait pas.
Mais oui, après, j'ai envie de dire, ça, c'est pas comme s'ils n'étaient pas prévenus, quoi.
C'est
mais...
ça. la raison pour laquelle je voulais parler du Japon, c'est pas pour cette petite chose, mais une nouvelle loi qui est passée au Japon qui aggrave le crime d'insulte en ligne. Suite à, je ne sais pas si tu suivais...
Terrace House,
ouais, tout à fait.
Non, pas moi, mais Jérôme, oui.
D'accord. Bah écoute, moi, j'aimais beaucoup Terrace House, cette série de télé-réalité au Japon. Et il se trouve que, bon, je ne vais pas repartir sur Terrace House, mais il se trouve que l'une des personnes, l'une des personnalités de Terrace House s'est suicidée, c'était au début de la pandémie. C'était évidemment un moment tragique pour la communauté, c'était un événement évidemment tragique et ça a levé une sorte de grand débat sur les insultes en ligne dans le pays parce que les membres de Terrace House devaient faire face à du harcèlement sur les réseaux sociaux depuis le début du lancement de la série. Hein. Même si franchement, Terrace House, c'était hyper gentil, c'était tout doux, c'est pas du tout la télé-réalité comme on y pense par chez nous. Et c'est ça qui me plaisait d'ailleurs. Mais donc, bon... Elle a tragiquement perdu la vie. Et ce qu'ils ont fait au Japon suite à ça, suite aux débats qui ont été lancés après cet événement, c'est qu'ils ont augmenté les amendes et les peines encourues par les gens qui font des insultes en ligne. Là, on en est... Au départ, c'était avant le changement, c'était $75 d'amende et... possiblement une peine d'emprisonnement de 30 jours maximum, ce qui est quand même pas mal, hein, 30 jours. Enfin, ça dépend de ce qu'on a fait, évidemment. Et là, on en est à un an de prison et environ 2000 euros d'amende. Je ne sais pas si c'est possible à appliquer, c'est toujours la grande question. Je ne sais pas si c'est... excessif ou pas, dans certains cas ça peut l'être, dans certains cas ça l'est certainement pas, mais c'est intéressant parce que je trouve qu'on constate que c'est pas... Enfin, dans différents pays du monde, on a commencé à s'intéresser à ces questions-là, non pas pour condamner systématiquement toutes les personnes qui vont vous envoyer un fuck you sur Twitter, mais pour avoir les outils juridiques de mettre des conséquences derrière des faits qui peuvent être clairement problématiques et qui peuvent être des cas de harcèlement qui vont bien au-delà d'un simple message envoyé sur un réseau social, quoi.
Ouais, après, c'est vrai que du coup, comment tu qualifies, qu'est-ce qu'une insulte, quoi? À quel moment ça devient une insulte? Et du coup, quand tu regardes Twitter, il y a plein de... Je cautionne pas, hein, évidemment, le fait d'insulter des personnes sur les réseaux sociaux, mais... Si on suit un petit peu les dernières élections présidentielles et les législatives, je pense qu'il y avait des petits tweets fleuris sur le réseau dernièrement, non ?
C'est ça qui pose problème, en fait. Les craintes qui se sont exprimées suite au vote de cette loi, au Japon notamment, c'est que, bah oui, mais une insulte, c'est quoi ? Parce que évidemment, quand on parle de harcèlement avéré, ça, on se dit qu'il faut faire quelque chose. Mais là, en l'occurrence, le terme peut être appliqué à n'importe quoi. On peut imaginer, alors peut-être pas demain et peut-être pas de cette manière, mais on peut imaginer un gouvernement qui s'en sert pour intimider des gens qui pourraient le critiquer. Et ça, évidemment, c'est le double tranchant de ce genre de loi qu'on connaît partout, mais on a cette problématique là aussi, parce que c'est clairement une insulte. OK, une insulte, c'est quoi? Tu dis, je sais pas, moi, machin, c'est un...
Idiot.
C'est un idiot, et tu es envoyé en prison pour un an et tu dois payer 2000 euros. Bon, à la limite, les 2000 euros, c'est moins grave qu'en prison, mais voilà, ça peut en refroidir certains, quoi.
Alors, la leçon qu'il faut en tirer, c'est ne traitez pas Patrick d'idiot sur Twitter.
Vous savez que j'ai le bras long, hein, donc faites gaffe.
Mais je serais... Et il n'y avait que au Japon, donc faites gaffe.
Mais oui, je connais, parce qu'en l'occurrence, si tu m'insultes, Twitter, il est au Japon aussi, donc je peux me servir de cette loi avec mes amis. il y a d'ailleurs un résultat de recherche assez intéressant qu'a publié Twitter sur ces petites notices qu'ils affichent quand ils repèrent qu'il y a un tweet un peu trop agressif. Vous savez, parfois, ils peuvent vous dire, vous mettre un petit label, pas un label, mais une petite pop-up avant que vous ne puissiez envoyer votre tweet en disant « Eh, ça a l'air un peu agressif, vous êtes sûr que vous voudriez pas reconsidérer l'envoi de ce tweet ou le faire différemment ?» Et les résultats qu'ils ont constatés, alors c'est leurs études à eux, hein, mais si on les prend comme ça, c'est que presque 70% des gens envoient le tweet quand même, sans rien changer. 10% des gens l'annulent, donc décident de ne carrément pas l'envoyer. Et un petit peu moins de 10% le réécrivent pour le rendre moins agressif. Il y a, après, il y a des gens qui le réécrivent pour le faire de la même. Le changement est neutre. Puis il y a 1% des gens qui le font encore plus agressif. Donc c'est vraiment les gens très, très énervés. Et je ne sais pas, qu'est-ce que tu penses de ces résultats, toi ? 70% des gens, j'oriente un petit peu ton commentaire, 70% des gens décident de ne rien changer à leur tweet quand ils reçoivent cet avertissement.
Non mais j'ai trouvé l'article passionnant. Merci beaucoup d'ailleurs de l'avoir mis, je ne connaissais pas du tout cette source. Et en fait, ça montre bien, l'article montre bien que réussir à faire un changement de 20% des utilisateurs, c'est énorme. Même si on a un résultat qui dit, en fait, il y a 70% qui l'envoient quand même. Bah oui, mais bon, il y en a quand même presque 20% qui vont soit l'annuler, soit le rendre moins offensant. Et en fait, rien que ça, c'est juste énorme. Essaye juste, si tu travailles, enfin, n'importe qui travaille dans le produit, avoir un changement de 20% sur sa base utilisateur, c'est énorme. Et en plus, c'est pas le seul changement, puisqu'il mentionne que lorsqu'il montre pour la première fois cette petite modale, ça change au fur et à mesure le comportement sur le long terme. Donc ça, c'est encore plus intéressant, ça montre la valeur sur le long terme de cette petite, de ce petit prompt qui ajoute un petit peu de friction et comment un tout petit peu de friction à un moment donné va impacter le comportement vraiment sur la durée, quoi. Je trouvais ça très intéressant.
Je suis assez d'accord. Bonjour au chat qu'on entend un tout petit peu dans le background. tu leur feras un bisou pour nous, pour moi. L'article d'ailleurs il sera dans la newsletter de la semaine, donc vous pouvez aller le trouver là-bas. Vous pouvez vous abonner sur notepatrick.com, mais c'est vrai qu'il est hyper intéressant parce qu'il insiste beaucoup sur ça, sur le fait que 20% c'est pas rien du tout, quoi. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est d'avoir justement ces études un petit peu scientifiques qui vont nous permettre de juger de la manière dont se passent les choses sur les réseaux sociaux, là où depuis des années maintenant on juge surtout au doigt mouillé en disant « Ah bah oui, de toute façon, on sait bien qu'eux, et on a bien, on le voit bien, bah oui, mais on le voit bien, ce que nous on voit, ça veut pas dire que c'est le truc qui prime sur, dans le comportement sur les réseaux sociaux. » Donc 20%, on va dire, c'est mieux que rien. Un petit tour du côté d'Apple, tiens, Stage Manager, vous vous souvenez de ce que c'est ? C'est cette fonctionnalité qui va être ajoutée notamment à iPadOS 16, qui va vous permettre d'utiliser une sorte de multitâche, multi-fenêtre sur iPadOS. Et ben beaucoup se disaient, mais pourquoi est-ce que c'est réservé au Mac M1 et aux iPad M1 ? Et certains disaient, mais est-ce que ça ne serait pas de l'obsolescence programmée, machin ? Et Apple a dit non, on a besoin de la mémoire rapide, machin, sur le Mac M1, parce que sinon ça ne marche pas. Et figurez-vous que les ingénieurs ont trouvé dans le code de iOS 16, de iPadOS 16, des références à des iPad legacy qui pourraient faire tourner ce Stage Manager, et donc Apple nous mentirait. Ils veulent nous pousser à acheter de nouveaux iPads. C'est sûr. C'est difficile.
Mais
à
parce
dire
que l'expérience ne serait pas optimale.
C'est ça, exactement.
On avait déjà eu ce débat chez Apple.
c'est exactement ça. On peut craindre que... Parce qu'en plus, il y a certains iPad M1 qui ne bénéficient pas de ce type de mémoire spécifiquement, qui peuvent le faire tourner quand même. Mais après, ils peuvent nous dire, ah oui, mais si on l'implémente dans les plus vieux appareils, ça ne tournera pas bien, machin. Donc voilà, si vous voulez dire qu'Apple fait de l'obsolescence programmée, voilà une cartouche de plus à votre fusil. Et puis, il y a une autre Un autre sujet que j'ai trouvé hyper intéressant aussi, qui a été soulevé suite au changement des nouveaux OS, c'est avec la possibilité d'éditer ou de supprimer les messages dans iMessage. Et est-ce que tu peux deviner, ou peut-être que tu l'as vu dans l'article, les préoccupations que ça peut lever, ça, le fait de pouvoir supprimer des messages dans iMessage?
Ah bah oui, on a déjà ce débat sur Twitter, donc... avec les pros edit et les contres. Donc voilà, c'est vers l'abus, vers la modification, le temps autorisé pour modifier et faire accepter quelqu'un quelque chose qui a été modifié finalement après coup.
Ça me préoccupe un petit peu moins parce qu'effectivement il y a le petit bouton, enfin le petit label, ça a été modifié. Mais ouais. La chose qui m'a interpellé, c'est le harcèlement. On en parlait à l'instant avec le Japon. Parce que sur Twitter, au moins, c'est public, même si ça n'empêche pas certains de faire des choses. Mais là, c'est des communications privées. Et l'une des critiques qu'on lit sur le fonctionnement de iMessage, qui pourront peut-être modifier, c'est qu'on peut éditer ou supprimer les contenus pendant 15 minutes. L'idée est de se dire, bah, si je me rends compte que j'ai fait une bêtise, je peux la corriger. Sauf que 15 minutes, ça peut permettre à des personnes... qui font du harcèlement, notamment, d'envoyer le message. 15 minutes, a priori, on peut se dire que la personne le verra, le destinataire le verra. Donc, des images non demandées, des images sexuelles, des images... Enfin, j'en sais rien, il peut y avoir 1000 choses différentes. Et puis, au bout de 14 minutes, on l'efface et la personne n'a plus vraiment de preuves. Alors, bien sûr, on peut faire une capture d'écran. Hein, mais ce que disent les experts qui en parlent, c'est que 15 minutes, c'est trop long. Ce qui serait préférable, c'est genre 3 voire 5 minutes, parce que, et c'est vrai que quand on y pense, 15 minutes, c'est pas j'envoie le truc et puis je me rends compte dans la minute que j'ai fait une bêtise, c'est j'envoie le truc, je vais faire autre chose, peut-être que je vois une réponse ou je reviens sur mon téléphone ensuite et je me souviens que je l'ai envoyé et je le modifie. Donc c'est on va dire c'est deux temps pour l'opportunité de modification. Est-ce qu'on ne couvrirait pas toutes les problématiques avec seulement un temps, entre guillemets? Et l'avantage de passer à 3 ou 5 minutes, c'est que du coup, beaucoup moins de personnes n'auront l'opportunité de voir le message s'il est effacé. Et du coup, la puissance de harcèlement de la chose est moins importante. Bon, après, je ne connais pas les détails spécifiques du nombre de personnes qui voient les messages en 3 minutes ou 5 minutes ou 15 minutes. Mais l'argument me parle pas mal et j'y avais pas vraiment pensé, quoi. Et cette durée de 15 minutes semble vraiment être problématique.
Oui, après, si... Non, je suis pas convaincue. Non, parce qu'en fait, tu peux aussi être dans une problématique où tu vas apprendre comment ça va être utilisé. Alors, je pense que Apple doit avoir les données hein, de quel est le délai les gens regardent leur message. Mais je pense que ce qu'ils peuvent vouloir apprendre ici, c'est quel est le laps de temps sur lequel les gens utiliseraient cette fonctionnalité d'edit et ajuster après coup. Tu vois, si tu vois que la majorité l'utilise dans les 5 minutes après avoir envoyé le message, bah, on peut très bien imaginer que dans le futur, bah, ils vont réduire la fenêtre à 5 minutes. Mais par contre, en fait, si tu la mets par défaut à 5 minutes et que tu vois que la majorité, c'est plutôt vers les 6 minutes, bah, tu le verras pas parce qu'ils pourront pas le faire. Donc,
pas bête, j'avais pas pensé à ça.
Bah, en fait, c'est vraiment la réflexion quand tu travailles sur du produit et que tu sors une nouvelle fonctionnalité, c'est comment tu vas permettre d'apprendre sur l'usage de cette fonctionnalité. Et donc, en gros, c'est quoi les hypothèses que tu veux vérifier? Et une des hypothèses, c'est les gens, la majorité des gens vont éditer leur message peut-être en dessous des 15 minutes. Bon, bah, dans ce cas-là, tu fixes la limite à 15 minutes et tu vois ce qui se passe et tu ajustes en fonction après.
Pas bête.
Tu vois. Donc, ça permet d'apprendre et d'itérer par la suite. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui, ils le font sur 15 minutes que plus tard, ils vont pas changer. Moi, je trouve ça relativement large pour pouvoir apprendre, parce qu'après, passer 15 minutes, ça me paraît plus vraiment pertinent. Voilà. Donc du coup, moi, je me positionne un peu comme... Non, je trouve ça intéressant pour apprendre, quoi.
D'accord. Très bien. Non, mais c'est vrai que je n'avais pas du tout pensé à cet aspect-là. Donc, c'est pour ça que je suis heureux de t'avoir dans l'émission. Tiens, entre parenthèses, on parlait, il y a, je crois que c'était peut-être dans le rendez-vous jeu, mais on parlait de syndicalisation aux États-Unis. Bah, il se trouve que des employés d'un Apple Store aux États-Unis, dans le Maryland, ont formé un syndicat, et c'est des choses qu'on commence à voir de plus en plus aux États-Unis dans la tech et dans le jeu vidéo. Et évidemment, les conditions de travail ne sont pas vraiment les mêmes aux États-Unis et en France, et les relations avec les employeurs ne sont pas les mêmes chez eux et chez nous. Et du coup, le fait d'avoir des employés qui forment des syndicats pour pouvoir négocier avec leurs employeurs, c'est, je pense que, vu d'ici, à vrai dire, vu de partout ailleurs, qu'aux États-Unis, qu'on soit quel que soit le bord politique, c'est le genre de choses où, un petit peu comme la santé aux États-Unis, tout le monde est d'accord pour dire ouais, il y aurait peut-être un autre moyen de faire les choses. On va dire ça comme ça. Vous savez quoi ? Un autre moyen de faire les choses dans la création de contenu, c'est aussi le fait de pouvoir soutenir les créateurs que vous appréciez. Les créateurs que vous appréciez, bah, par exemple, comme les gens qui font le Rendez-vous Tech. Et bah, si vous appréciez le Rendez-vous Tech, vous pouvez soutenir financièrement le Rendez-vous Tech, comme l'a fait Yann Bajot, qui a rejoint l'émission il y a quelques jours à peine. Il est allé sur patreon.com/rdvtech et il s'est dit « Je vais devenir un participant actif à cette incroyable aventure qu'est le Rendez-vous Tech, qui dure depuis... j'ai même pas envie de le dire, mais depuis presque 15 ans maintenant, 15 ans que j'ai lancé le Rendez-vous Tech, presque 10 ans que j'en vis, et c'est grâce à des gens comme Yann et comme tous les patriotes qui soutiennent l'émission et qui en plus ont des bonus absolument incroyables, comme les timecodes, l'absence de pub. D'ailleurs, Yann, il entendra même pas cette petite partie au milieu où je le remercie parce qu'on l'enlève dans le flux privé, les contenus bonus avec les éditos et ce genre de choses, et surtout, le contenu bonus le plus important, c'est la fierté. On n'a pas souvent, je crois, l'occasion d'être fier dans son quotidien, mais je crois que ceux qui soutiennent le Rendez-vous Tech peuvent être fiers de leur démarche active de soutien, de création de contenu qu'ils apprécient dans un monde où les médias sont en difficulté, où il est difficile de faire du contenu de qualité. Alors là, je pars du principe que c'est du contenu de qualité, qu'il est fier, etc. Mais on va
Patrick,
dire que... Oui
mais... Mister Patrick, tu es notre petit producteur indépendant. Tu sais la métaphore qu'on utilisait tout à l'heure.
C'est ça.
Donc, bravo.
Merci. Je suis le petit producteur indépendant de news que vous pouvez soutenir sur patreon.com/rdvtech si vous le souhaitez, bien sûr. Et si ça ne vous met pas en difficulté financière, évidemment, je le dis de temps en temps, mais c'est une évidence. Si vous pouvez vous le permettre, j'apprécierai énormément votre soutien.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
C'est un peu compliqué de parler de VivaTech parce que... Comment dire ? T'y étais pas, toi, à VivaTech, si ?
Alors, moi, j'y étais pas et Naotech y était.
Ouais. Donc, alors, tu fais partie d'une société qui était à VivaTech, enfin, d'une société de Naotech qui était à VivaTech. Donc, je vais pas te demander de commenter le salon. VivaTech, c'est l'un des salons, enfin, c'est le salon technologie en France, à Paris. Et comment dire ? Il y a des choses intéressantes, mais on peine à y trouver vraiment des tendances ou des produits qui nous fasse dire bah ça valait le coup que j'y sois allé. J'ai l'impression, hein, moi j'ai suivi un petit peu ça de loin sur les réseaux sociaux, dans les articles, j'ai l'impression que c'était un peu chiant quand même. Il y avait des trucs comme...
Il paraît qu'il y avait des conférences quand même très intéressantes. Le problème, c'est qu'il y a un peu de tout. Il y a du pire comme du meilleur. Et en fait, il faut réussir à trouver dans tous les stands ou les conférences le meilleur, ce qui n'est pas forcément facile. Donc voilà, c'est un petit peu la difficulté peut-être du salon.
Ouais. Bah, j'encouragerais les auditeurs, si vous avez vu passer des choses qui sortaient de VivaTech et que vous avez trouvées intéressantes, je vous encouragerais à venir me le partager sur le réseau, sur les Twitter ou sur le Discord, tiens, qui est un endroit super sympa où on discute entre amis. Venez me dire ce que vous avez vu d'intéressant à VivaTech sur le Discord, parce que j'ai pas vu passer beaucoup de choses super intéressantes à part des petits gadgets. C'est forcément un petit peu compliqué dans le contexte actuel de faire des choses vraiment intéressantes dans la technologie. Et je suis content, ça, je veux être clair, je suis hyper content qu'il y ait un salon tech à Paris, en France, tu vois, des choses qui nous permettent de faire vivre un petit peu ce milieu. Mais je crains que il existe depuis longtemps en plus, mais on n'avait pas, c'était pas une édition incroyable, on va dire. Donc voilà, je voulais le mentionner parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui y penseront en écoutant l'émission, mais j'ai pas trouvé qu'il y avait des choses super, super notable.
Donc là, c'est une invitation à contredire Patrick sur Twitter et lui lister tous les projets que vous avez trouvés hyper intéressants. Je suivrai ce fil avec grand intérêt.
Tu sais, moi, j'adore contredire les gens et j'adore qu'on contredise ce que je contredis. Donc, si vous voulez vous faire l'avocat du diable avec Patrick, c'est l'avocat du... J'ai pas mon soundboard. C'est l'avocat du diable. Voilà, vous dites ça en titre de votre tweet et puis vous m'expliquez de quoi il s'agit.
C'est hashtag avocat du diable.
Voilà, parfait. Hashtag avocat du diable. Je suis curieux de voir s'il y a des gens qui vont y arriver du coup à trouver des trucs vraiment cool. Il y avait des choses. Hein,
non, je vais trouver un truc.
Ouais, ah super, merci. Je regarderai ça. Mais tu sais, genre le
potager. Je répondrai sur Twitter.
Le potager à la maison, les casques connectés pour vélo, ce genre de trucs, des bus autonomes encore, la RATP, s'appelle encore RATP, Transport de Paris, va lancer des bus sans conducteur là cette année. Donc il y avait des petites choses quand même, mais bon. Vous me direz ça sur Discord et Twitter. Elon Musk, tiens, pour une fois, je ne vais pas dire que du mal d'Elon Musk dans un épisode. T'es prête? Est-ce que tu es préparée à cet événement?
C'est historique.
Il faut avouer que depuis quelques semaines, quelques mois, on ne s'arrête pas. Mais là, il se trouve qu'il a fait un all hands meeting avec les employés de Twitter, donc une sorte de discussion bien sûr par vidéo interposée, avec les employés de Twitter, où il répondait aux questions de la société en parlant de ses projets, ses plans pour Twitter, s'il réussit à racheter. Ça, on ne sait toujours pas ce qui va se passer. Mais au départ, j'étais un petit peu... il est arrivé 10 minutes en retard. C'est vraiment... Il fait tout pour qu'on le déteste. Mais la transcription que j'ai lue était quand même intéressante parce que, évidemment, contrairement à ce qu'on voit avec ses tweets quand il est shitposter en chef, il était beaucoup plus posé, beaucoup plus réfléchi dans ce qu'il disait. Et puis, il y avait quelques trucs qui avaient du sens dans la manière dont il appréhendait le positionnement de Twitter parmi les réseaux sociaux et les services numériques dans le monde. Il disait des choses, par exemple, on a beaucoup parlé, et lui, il a beaucoup parlé de la question de la liberté de parole absolue. Ce qu'il disait, c'est on a... à mon sens, un devoir de laisser n'importe qui s'exprimer. Et il a beaucoup insisté, dans le cadre de la loi, donc dans le cadre de la loi, il faut respecter les lois partout. Donc évidemment, ça coupe en deux sa liberté de parole absolue, telle qu'il l'a laissé imaginer quand il en parlait au départ. Mais surtout, il disait, on a un impératif de freedom of speech, mais pas du tout d'impératif de freedom of reach. C'est-à-dire qu'il n'a pas du tout d'idée ou d'envie d'amplifier certains messages qui, s'il considère que, pour une raison ou pour une autre, ces messages ne sont pas acceptables, même s'ils sont légaux, il peut dire que l'algorithme n'a aucune raison de les pousser vers telle ou telle personne. Alors, c'est couteau à double tranchant, ça, lame à double tranchant, mais c'est, on va dire, une là entre si on respecte la loi, enfin il faut respecter la loi, et il y a cette histoire de freedom of reach, bah il fait deux pas en arrière sur la liberté de parole absolue, ce qui évidemment était une problématique qui nous posait beaucoup de problèmes ces dernières semaines pour les raisons qu'on avait détaillées. Il parle aussi du fait que il n'y a que 200 millions d'utilisateurs de Twitter quotidiens dans le monde et qu'il y a 8 milliards de personnes dans le monde. Et il pose une question peut-être un petit peu naïvement que beaucoup de gens se posent depuis longtemps, c'est mais enfin il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas plus d'utilisateurs que ça. Twitter est un outil unique qui permet une forme de communication unique. Pourquoi est-ce que encore aujourd'hui on n'a que entre guillemets 200 millions d'utilisateurs quotidiens dans le monde? Ça n'a pas de sens. Et puis un dernier truc qu'il disait, alors deux autres choses. Il y a une opportunité pour les créateurs, et c'est pas parce que moi je suis créateur que ça me parle, mais de monétiser leur contenu sur Twitter. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, Twitter est utilisé pour lier à d'autres services qui hébergent et qui monétisent le contenu. Lui, il voudrait que bah, Twitter puisse être un endroit où les créateurs de contenu puissent monétiser eux-mêmes. C'est pas faux. Et enfin, il disait, si on réussit à authentifier les gens et à s'assurer que les utilisateurs de Twitter sachent quand ils parlent à une vraie personne avec certitude ou plus de certitude qu'aujourd'hui en tout cas, eh ben ça assainirait la plateforme. Et au moins le fait que, bah, même si on se fait engueuler, agresser par quelqu'un, si on sait que c'est une vraie personne et pas un bot, ça améliore, on va dire, la qualité du réseau et des conversations. Et je crois que, alors ça ne diminue pas le problème du harcèlement, mais cette idée qu'on sache si une personne est un bot ou pas, la question de est-ce que c'est faisable, c'est encore une autre question, mais c'est pas faux. Si je savais que quelqu'un est un humain ou est un bot, eh ben, ou un troll, ça pourrait m'améliorer mon expérience sur Twitter. Après, comment on fait pour l'implémenter, ça, c'est tout un autre problème, hein, et ça pose beaucoup de soucis. Mais c'est pas faux. Donc, il y avait de la cohérence dans ce qu'il disait. Oh, bon, évidemment, plus que dans ses tweets. Mais pour une fois, je me suis dit, OK, peut-être qu'il a vraiment un plan, un projet pour Twitter, quoi. J'étais pas forcément méga rassuré, mais un petit peu.
Et du coup, si donc le transcript est hyper intéressant parce que tu as vraiment les réponses données brutes par Elon Musk, toi, ton potentiel futur CEO s'adresse à ta boîte comme ça avec les réponses qu'il vient de donner, ça te rassure ?
Alors, les employés, clairement, ils n'étaient pas rassurés.
Parce que moi, quand j'ai lu les réponses, j'étais absolument pas rassuré. Hein. Je ne suis même pas employé Twitter. Hein.
Ouais, qu'est-ce qui t'a le plus inquiété là-dedans alors ?
Je trouve que le ton employé lors de ces réponses est d'une légèreté. On dirait qu'il balance ses idées pêle-mêle sans avoir aucune structure. C'est assez déconcertant la manière dont il répond aux questions. On dirait qu'il va partager tout ce qui lui passe par la tête sans filtre. Et il le dit un petit peu. Hein, il dit « moi, je suis transparent, je dis les choses comme elles sont, etc. » Ouais, sauf qu'en fait, t'as une certaine responsabilité par rapport à la manière dont tu délivres tes pensées, pour que d'abord elles soient comprises par le plus grand nombre et qu'elles soient inspirantes, si t'as envie de garder ton équipe. Après, il peut ne pas avoir envie de garder l'équipe. Mais j'ai pas trouvé ces réponses inspirantes. Je les ai trouvées agressives, et pourtant c'est de l'écrit, mais je les ai trouvées agressives, très superficielles, parce qu'en fait, il balance des grandes vérités qui, je pense, toute l'équipe de Twitter a déjà réfléchi. Enfin, je veux dire, monétiser.
C'est un peu du yaka faucon, quoi. Mais il y a qu'on puisse pas faire des bots. Voilà, ça serait super bien.
Et t'es là, mec, j'ai bossé depuis X années chez Twitter. Tu crois quoi? Tu m'attends, tu m'apprends, tu m'apprends la base. Ça fait un peu. Genre, dis-moi ce qui est un peu évident et c'est tout, quoi. Donc, j'ai trouvé ça assez décevant. Bon, alors après, j'ai pas tout lu, mais j'ai quand même lu pas mal du début. Je trouvais ça particulièrement embêtant, enfin ennuyeux pour pas dire un autre mot. Et après, j'ai lu un peu à la fin, etc. J'ai rien trouvé de très inspirant. Et surtout, il a l'air d'être. Enfin, ça confirme cette impression que c'est très top down. Il va avoir des envies, des intuitions, il va les partager, et si t'exécutes pas, ça l'intéresse pas, et il va potentiellement pas forcément être super ouvert à du bottom-up, quoi, avoir des suggestions données par les experts qui sont dans les équipes au plus proche des utilisateurs, au plus proche des données du produit, et être à l'écoute de eux, ce qu'ils pensent et ce qu'ils pensent le plus pertinent pour le produit. Donc ça rend un peu inquiet là-dessus. Je ne l'ai pas trouvé très ouvert par rapport à l'équipe.
Alors, clairement, je pense qu'on sera d'accord sur ce point. Bon, j'essaye de dire du bien, tu m'entraînes dans les méandres des critiques d'Elon Musk. Faut voir d'où on part aussi, hein. Ce qu'on dit depuis des semaines, c'était absolument effarant dans la manière dont il communiquait sur ce qu'il voulait faire et ses projets pour Twitter, et ses allées et venues entre oui, non, peut-être, je sais pas, il y a des histoires de bots, machin. Mais pour me faire quand même, pour pousser un petit peu l'avocat du diable encore un peu, je me demande si parfois, avec un produit qui est enlisé, qui est embourbé dans une sorte de quotidien compliqué qui résout pas ses problèmes, est-ce qu'il faut pas justement avoir quelqu'un qui est au-dessus de la mêlée, qui a une vision un petit peu simpliste peut-être, mais beaucoup plus, comment dire, pas sur le quotidien du produit, mais sur la vision de ce que pourrait être le produit pour dire... Attendez, non, faisons plutôt ceci, plutôt cela, pour débloquer une situation qui est bloquée.
Oui, ça a de la valeur, mais il faut avoir une vision inspirante. Je veux dire, tu peux l'avoir simpliste et inspirante. Là, j'ai rien vu de très inspirant. Est-ce que toi, t'as vu un truc qui donne envie de rejoindre la boîte, quoi ? Moi, j'ai rien vu.
Alors, la boîte, je sais pas. Clairement, moi, j'aurais pas envie de travailler pour Elon Musk, je crois, mais mais non, par contre, l'idée que, par exemple, le fait que Twitter est une destination, n'est pas une destination, justement, c'est une sorte de relais de communication plutôt qu'une destination. Bah, je le comprends, effectivement, c'est une opportunité un petit peu manquée. Alors après, ça pose plein de problèmes, parce que du coup, si tu héberges également le contenu, tu deviens responsable potentiellement pour tout un tas de contenus. C'est hyper compliqué, hein, je dis pas le contraire. Ça change.
Oui, parce qu'il compare, il compare Twitter à une place publique qui donnerait la voix, du coup, à tout un chacun. Ouais. C'est assez intéressant, en effet, comme image, mais j'ai l'impression que c'était pas nouveau comme image. On n'avait pas déjà entendu ça par rapport à Twitter?
Oui, bien sûr, la place publique. Mais je veux dire, ce qu'il dit, par exemple, c'est, les gens qui sont des gros YouTubeurs, ils viennent tous sur Twitter pour dire « Allez voir ce que je fais sur YouTube ». Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire des choses sur Twitter directement ? Pas forcément exactement les vidéos YouTube, mais il n'y a pas de création de contenu et de monétisation et de création de valeur sur Twitter. C'est qu'un relais. Donc, tu vois, cette idée, je ne la trouve pas fausse. Est-ce que c'est possible à implémenter ? Ça, j'en sais rien. Mais cette idée, ce n'est pas faux. Et c'est le genre de trucs qui sont évidents quand tu les dis. Mais peut-être que ça nécessite une vision qui est un petit peu en recul pour dire « Mais attendez les gars, tout le monde utilise Twitter pour envoyer les gens ailleurs. Pourquoi est-ce que nous, on ne fait pas un truc qui puisse avoir une valeur en soi ?»
Oui, il y avait ce problème, notamment sur les newsletters payantes.
Ouais.
Voilà.
Ouais, bah, qu'ils ont essayé, oui. Ils ont racheté, ça s'appelle, le truc qu'ils ont racheté pour faire leur propre newsletter.
Je me souviens plus du nom.
Ils ont un petit
Et il y a des moments un petit peu gênants aussi dans l'intervention. Je sais pas si tu l'as lu comme moi. Je pense que je suis très biaisée négativement sur le personnage d'Elon Musk. Après, il a fait beaucoup de choses très intéressantes. Mais je suis très biaisée négativement, donc je préfère prévenir. Mais j'ai trouvé un moment assez dérangeant quand Leslie Berlin l'interroge sur la possibilité de travailler à distance pour les employés de Twitter et qui dit ah oui non mais si le manager prouve que cette personne est un excellent contributeur, il y a absolument pas de souci, on préfère le garder à distance que le perdre en tant qu'employé Twitter. Et donc très bien. Donc elle revient ensuite après, fait oui mais du coup ça veut dire que on pourra travailler en remote. Oui uniquement pour les personnes qui sont excellentes, et on privilégiera quand même dans la grande majorité travailler sur place. Tu sens qu'elle essayait de l'amener, enfin la personne essayait de l'amener quelque part, mais il y allait pas du tout, quoi. Donc, c'est pas du tout rassurant.
Des problèmes à Tesla pour cette question de travail à distance. Et il est clair.
Après, il tient son positionnement. Mais, oui. Mais on sent que la personne qui l'interrogeait essayait de rassurer un petit peu les employés, mais que ça n'allait pas du tout dans ce sens-là, quoi.
Même sur la question de l'emploi, il disait je suis pas sûr qu'on pourra garder tout le monde. Tu vois, il est au moins.
Après,
il est clair.
Il est clair, exactement. Bon. Que ça plaise ou non, il est clair.
Et justement, à propos de liberté de parole et d'honnêteté et de machin, SpaceX aurait renvoyé des employés qui avaient écrit une lettre ouverte à Elon Musk, enfin une lettre ouverte pour critiquer le comportement d'Elon Musk par rapport à la boîte SpaceX et son comportement qui était embarrassant et une source de distraction, comme ils le disent, et que ça affecte la boîte SpaceX. Et du coup, maintenant, bah, ils travaillent plus à SpaceX. Alors, je ne sais pas si c'est en accord avec la liberté de parole absolue. Bon, on ne va pas partir là-dessus. Le NHTSA dont on parlait la semaine dernière, qui enquête sur les accidents de voitures Tesla, eh ben, on parlait de quelques dizaines d'accidents, ou je crois qu'on disait 14. En fait, c'est 392 accidents. Donc, c'est quand même pas mal. Et il y a eu 6 morts dans l'histoire. Tesla n'a compté que 273 crashs. Donc, bon, voilà, pour vous donner un petit peu une ampleur de la chose. Et ces données ne couvrent que juillet 2021 à mai 2022. Donc, ça fait quand même une certaine quantité d'accidents, hein, et 6 morts en moins d'un an. Donc, voilà, c'est des choses à noter aussi. Et à côté de ça, bah, c'est toute la...
Intéressant de... Juste pour rebondir là-dessus, ça serait intéressant de comparer, d'avoir le nombre total de véhicules en circulation et de comparer avec l'industrie automobile classique.
C'est sûr. La différence, c'est que là, il y a l'histoire d'autopilote, tu vois. Alors peut-être qu'ils ne sont pas tous dans le cadre des autopilotes, mais c'est ça qui...
Bah, j'ai l'impression que si, parce que c'est ça qui est la cible.
Qui est enquête, oui, tout à fait. Oui, tout
exactement.
À fait. C'est... Et autant pour moi, c'est évidemment pendant Driver Assistance Mode, machin. Donc.
Voilà. Mais c'est ça qui serait intéressant, c'est de savoir combien de véhicules avaient ce mode enclenché et comparer avec le même nombre de véhicules qui n'ont donc pas cette assistance-là sur la même période et voir le nombre de...
Oui, si le pourcentage d'accidents est plus ou moins élevé quand on a l'assistance ou pas. Tu as tout à fait raison. Oui, ça serait une donnée intéressante. On essaiera de la trouver pour la semaine prochaine.
Évidemment, Seymour, ça reste dramatique. Hein.
Non, mais ça
questionne pas ça du tout.
Évidemment. L'autre côté du personnage, c'est que SpaceX, là, cette dernière semaine, c'était quand même ces 3 derniers jours, ils ont fait décoller 3 fusées en 3 jours. Ce qui est... enfin, moi, je ne suis pas un spécialiste de l'espace, mais j'ai l'impression que généralement, quand tu penses à, je sais pas, Ariane ou Challenger ou ce genre de truc, c'est... S'ils font décoller 2 fusées par mois ou s'ils font 2 vols par mois, c'est un miracle. Là, SpaceX, c'était 3 fusées en 3 jours, 3 missions, dont je crois que c'était 2 Falcon 9 et des trucs réutilisables, notamment, enfin... On est dans une étape d'industrialisation de l'exploration spatiale ou du voyage spatial qui est phénoménale. Et je ne peux pas, évidemment, écarter le personnage tout controversé, ma détestation si grande soit-elle du personnage, que bah, ça, c'est incroyable. Et il en est, évidemment, pour une grande partie responsable, quoi.
C'est fascinant. Hein. Mmh. C'est pareil, je suis comme toi. Hein, c'est-à-dire que... je trouve ça fascinant de voir comment l'industrie spatiale est bouleversée, révolutionnée par cette boîte. Il y a bien d'autres boîtes aussi, mais quand même, sur la réutilisation des navettes, c'est quand même impressionnant. Mais à côté de ça, c'est vrai que le personnage est tellement controversé aussi que... Et bon. C'est intéressant parce qu'il y avait justement... ça rejoint du coup le document là des employés de SpaceX hein, sur le comportement d'Elon Musk qui est une source de distraction et d'embarras au sein des employés, c'est-à-dire que même si ce qu'il fait est inspirant, parce que je veux dire ce qu'il a fait avec l'industrie spatiale est inspirant, les véhicules électriques c'est inspirant, etc. Mais c'est à côté de ça, il faut contrebalancer la personnalité, quoi.
J'aimerais tellement... Tu sais, c'est marrant, j'étais dans This Week in Tech il y a une dizaine de jours et on se disait, on pensait à qu'est-ce qui se passerait si on avait eu... Qu'est-ce qui serait passé si on avait eu Twitter quand Steve Jobs était encore vivant. Enfin, il était encore vivant, mais s'il avait été sur Twitter. Et on se souvient évidemment de la vision intransigeante, du caractère particulier de Steve Jobs, mais certains ne savent peut-être pas que, par exemple, il a essayé de soigner son cancer avec des jus de légumes. Et je suis pas du tout sûr qu'il aurait pas dit des trucs du genre sur Twitter, s'il avait été sur Twitter, des trucs du genre « Non, mais de toute façon, ces nouveaux vaccins, c'est hyper dangereux. Moi, je vais pas me faire vacciner, je vais pas faire vacciner ma famille. » Tu vois, c'est peut-être que...
Petite question.
Ouais.
Peut-être que toi, tu t'en rappelles mieux que moi, mais est-ce que c'était... un grand personnage public, Steve Jobs, en dehors de ses keynotes, etc. Pour moi, j'ai quand même une image de quelqu'un qui était très, qui gardait sa vie privée et ses opinions en dehors de tout ce qui était lié à Apple et produits, etc., qui gardait ses opinions pour lui, quoi, qui était quand même assez confidentiel.
Complètement, mais ce que je veux dire, c'est que là, il se trouve qu'on a le flux en direct du cerveau d'Elon Musk et qu'il veut le faire. Mais si on n'avait pas eu Twitter, peut-être qu'on ne saurait pas du tout poser la question sur Elon Musk et que bah il y a enfin des dizaines, des centaines de génies qui ont révolutionné des industries et des sciences et notre monde qui, s'ils avaient eu Twitter, bah on serait dit mais attends, mais qu'est-ce que c'est que cet abruti, qu'est-ce que c'est que ce connard, pourquoi il dit, tu vois, Steve Jobs, il n'était pas sur Twitter, mais c'est pas la question, c'est que si on avait eu son quotidien, bah peut-être qu'on aurait été aussi choqué que de voir ce que dit Elon Musk aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire?
Mais encore une fois, je pense qu'il y a aussi ce besoin d'être public, il y a quand même une attitude un petit peu bizarre de tout le temps s'exprimer sur Twitter, de créer des réactions comme ça extrêmes, ouais, des controverses. C'est quand même utiliser son énergie pour pas faire grand chose, quoi. Et surtout quand on sait que la personne dirige X société. Vous avez compris.
Peut-être moins sur Twitter, plus sur Discord maintenant, mais je suis quand même souvent sur Twitter aussi, donc je le comprends un petit peu. Tu sais, c'est un rush d'endorphines. Oh, j'ai eu 3 likes, super, yeah, je suis content.
Je comprends tout à fait, hein, mais ouais. Il y a aussi un intérêt à créer des discussions pour le meilleur, quoi.
Clairement, c'est pas ce qui le préoccupe le plus, mais c'est marrant la vision qu'il a.
Le Dogecoin, je suis pas sûr que ça soit hyper intéressant, quoi.
Quand tu lui demandes ce genre de choses, quand tu lui parles de ce genre de choses, il dit mais une véritable manière d'aider l'humanité, c'est de s'assurer que on devienne une espèce multiplanétaire, par exemple. Ça, c'est du vrai. Une vraie j'oublie le mot quand je pense à Elon Musk, mais tu vois, c'est une vraie envie d'aider l'humanité. Ça, c'est des trucs qui sont hyper importants. Le fait de développer par une société de voitures, de développer toute l'industrie de l'électrique, ça, c'est s'attaquer à des vrais problèmes de manière efficace. Et donc ensuite, il a sa cour de récré avec les Dogecoin et les machins, et il fait son shit poster sur Twitter. Il a d'un autre côté ses préoccupations aussi, donc c'est pas qu'il a pas la question qu'il turlupine, tu vois, de comment on fait pour aider les gens, quoi. Bon, bref.
Oui, mais en fait, c'est ce qui manque, c'est la prise en compte de cette responsabilité de personnage public qui...
Ah oui, ça.
Où il en fait n'importe quoi. Enfin, littéralement, ouais. Des fois, tu te demandes vraiment.
Ça se trouve, lui. Mais bon. Il a l'impression qu'il fait les choses bien. Bon, bref, écoute, on résoudra le cipher, le puzzle qu'est Elon Musk un autre jour. avant de se quitter, alors je voulais mentionner le fait que TSMC et d'autres constructeurs fondeurs de Taïwan sont en train de lancer la fabrication de 20 nouvelles usines pour 120 milliards de dollars d'investissement. Ici en Europe et aux États-Unis, on investit genre 5 milliards par-ci, 5 milliards par-là. Taïwan est très intéressé par l'idée de rester à la pointe de la fabrication de processeurs, et vu les relations avec la Chine, je pense qu'ils ont besoin d'un truc dont l'Occident se dit non, mais on a besoin de vous. Il y a une offre premium pour Telegram qu'on détaillera peut-être un jour, mais c'est intéressant de voir que Telegram, plutôt que se diriger vers la pub, essaye de se diriger vers le financement par ses utilisateurs. Et puis, je voulais dire quelques mots sur l'univers des crypto-monnaies, vraiment Parce que c'est, comme je vous dis, hein, moi j'essaye de faire ma veille et d'être, de vous donner une sorte de panorama de ce qui se passe d'important dans le monde de la tech. Et ben, depuis quelques semaines, ça n'arrête pas. Il y a évidemment des changements radicaux ou en tout cas des tumultes importants dans le monde des cryptos. Et ben, les bitcoins sont, le bitcoin est passé sous la barre des 20 000 dollars, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Et les conséquences dans le monde des cryptos du bitcoin et du reste sont importantes. On pense évidemment au Salvador. Qui a acheté genre presque 2500 bitcoins. Le président Nayib Bukele, il a perdu plus de 50 millions de dollars pour son pays avec son achat de bitcoin dont il a fait une des monnaies du pays. Il y a des firmes comme Three Arrows Capital qui sont des fonds crypto qui investissent ailleurs, qui sont au bord de la faillite, qui du coup pourraient entraîner d'autres boîtes dans son sillage s'il se casse la gueule. Il y a des sociétés comme Solend Labs qui essayent de se rattraper aux branches avec, enfin, il y a des histoires de décentralisation qui est pas vraiment décentralisée, surtout avec le proof of stake qui permet aux gens de voter pour prendre une décision s'ils ont la majorité. Ils ont pris une décision controversée chez Solana, ils sont revenus en arrière, mais ça montre que quand t'es en proof of stake, bah, si t'as suffisamment de gens qui votent pour un truc, tu peux faire ce que tu veux avec la blockchain. En l'occurrence, c'était l'appropriation d'un compte de la blockchain, juste le fait de le prendre, parce que ça posait des problèmes d'équilibre. Quoi d'autre ? Enfin, il y a mille choses qui se passent dans ce sens-là. Selon blockchain.com, le hash rate, le taux de hash du Bitcoin a chuté de 4% parce que les revenus qui sont en Bitcoin sont devenus beaucoup moins importants et les gens qui ont des machines de minage trouvent que ça vaut plus la peine, ou en tout cas certains. Et du coup, le hash rate a descendu. Et bon, en conclusion, 2 billions de dollars de valeur en crypto-monnaie a disparu dans les 6 derniers mois, depuis le plus haut du Bitcoin qui était en novembre 2021. Et les 2 billions de dollars, c'est les 2/3 de la valeur de crypto qui existait depuis le début de l'histoire des cryptos. Donc, si vous comprenez pas à quel point la crise que traversent les crypto-monnaies est importante, vous pouvez retenir ce chiffre-là. Les 2/3 de la valeur des cryptos a disparu par rapport au plus haut de novembre 2021. Donc voilà, j'espère que tu n'avais pas investi toutes tes économies en Bitcoin, Marion.
Non, mais même, j'ai envie de te dire, ceux qui ont investi de manière plus générale, hein, que ce soit crypto-monnaie, actions et compagnie, rien n'est au beau fixe. Là. Ceux qui ont misé sur Tesla, par exemple,
Non, clairement. Mais enfin, disons que dans le monde des cryptos, c'est quand même, tu vois, il y a crise et cataclysme. Là, on est plutôt dans la...
Oui, mais c'est très volatile. C'est très volatile, donc du coup, tu as les effets amplifiés.
Peut-être que ça remontera, pas partout, mais d'ailleurs, il y en a certains qui le pensent encore, que c'est un moment dur, mais bon, écoutez, on suivra ça, on continuera à vous en tenir informés. Ce qui est clair, c'est que dans le monde des cryptos, là, il va y avoir des morts qui ne vont pas se relever, ça, c'est certain. Merci Marion d'avoir été avec moi dans cette émission et de nous avoir prêté ton expertise. C'était un plaisir, comme toujours. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver, si on peut prolonger ces moments de plaisir en ta compagnie ?
Bien sûr, on se retrouve sur Twitter au pseudo Aizea Design et je suivrai vos suggestions de sociétés à Vivatech pour Patrick.
Hashtag voilà. Avocat du diable.
Exactement, hashtag avocat du diable, exactement, donc on se donne rendez-vous sur ce hashtag en mentionnant notre Patrick, et puis sinon vous pouvez me retrouver tous les mardis matins à 8h sur Naotech Team sur Twitch pour débriefer de l'actualité tech.
Merci beaucoup Marion. Pour ma part, c'est NotePatrick sur NotePatrick.com. Alors, il y a tout hein, sur NotePatrick.com. Le Discord, où on se sent super bien. La newsletter, qui est envoyée tous les vendredis. Le Twitch, que je reviens en Finlande, là, dans quelques jours. Donc, le prochain épisode sera a priori en live sur Twitch. Et tout le reste, les réseaux sociaux, et bien sûr, patreon.com/rdvtech. Le lien est d'ailleurs même dans les notes de l'émission. La plupart d'entre eux sont dans les notes de l'émission. Donc, vous pouvez très simplement nous y rejoindre et vous pouvez soutenir l'émission si vous le souhaitez. On vous fait d'énormes bisous et on vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Et voilà les énormes bisous, les voilà, ils arrivent. Mouah. Ciao, ciao.